Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement serait-il en train de reculer sur les retraites? La réforme tant attendue pourrait finalement être repoussée, notamment pour les régimes spéciaux, voire pour tout le monde, et ne s'appliquer qu'aux générations futures. Pourquoi cette volte-face? Le gouvernement redoute-t-il la convergence des colères, notamment dans la fonction publique, avec un appel à la grève illimitée dans les transports parisiens à partir du 5 décembre? Le syndrome des grandes grèves de 1995 est-il en train de rattraper Emmanuel Macron? L'exécutif a-t-il peur? C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Retraite, régimes spéciaux, la grande reculade ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Cayrol, politologue, directeur du CETAN, c'est le Centre d'études et d'analyse, auteur du « Président sur la corde raide, les enjeux du macronisme », c'est chez Calman Lévy. Fanny Guinochet, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions économiques et sociales, et on vous écoute tous les matins sur France Info. Stéphanie Matteudy, vous dirigez la société ADDS, Art du dialogue social, et vous êtes chercheuse au laboratoire de recherche et d'études en droit social rattaché à Lille 2. Et enfin, Gilles Dansard, journaliste spécialiste des questions sociales. Vous dirigez Mobilettre, lettre d'information sur les questions de mobilité. Roland Cayrol, alors est-ce qu'on peut, on va rentrer dans le détail, mais d'abord, est-ce qu'on peut parler d'une reculade sur cette réforme des retraites qu'on nous annonçait imminente, qui aurait même déjà dû être votée d'ailleurs dans le calendrier initial?
Voter, oui, enfin, tout de même.
C'était
pas
avant l'été 2019, avant. Hein.
Ouais, enfin, oui, mais ça avait été repoussé d'un an
ça
déjà.
Ça avait été repoussé. Ouais.
Cette fois-ci, c'est vraiment repoussé et ça va changer beaucoup, puisque vous le disiez, cette perspective éventuelle de remettre les pendules de telle façon que c'est ceux qui entreront sur le marché du travail en 2025 qui pourraient être à ce moment-là concernés. Ça veut dire que 2025, ça veut dire si on entre à 20 ans à l'âge de dans le travail, on est né en 2005, ça veut dire 40 ans, 62 ans plus tard, 2067, pour la pleine application de la loi.
– Cette réforme qu'on nous prépare, elle ne s'appliquerait qu'en 2067, ce qui effectivement… –
Avec tous ses pleins effets, oui.
– Fin du 21e siècle.
– On nous avait dit que c'était jusqu'à 2040, on vient de perdre ou de gagner 27 ans, si ça se passe, parce que nous n'avons, c'est encore qu'une hypothèse.
Ouais.
Mais c'est clair que, bon, il y a bien sûr cette histoire… du mouvement social, des grèves, etc. Aucun gouvernement n'aime à avoir géré ça, d'autant qu'il y a des précédents fâcheux. Vous parliez de 95, où le gouvernement a été forcé de retirer sa réforme sur les retraites, et ils n'ont pas envie de la retirer. Et puis, il y a peut-être plus encore que ces mouvements sociaux, cette pression de l'opinion. Je pense qu'ils ont fini par comprendre, les macroniens, que on ne fait pas des réformes contre la société, des réformes qui concernent l'ensemble de la société. Il faut que la société les accepte. Et donc, il faut négocier avec elle, ses représentants et avec les citoyens directement pour qu'on finisse par faire quelque chose qui soit mangeable par la société. Et on voyait bien, au fil des sondages, que c'était de moins en moins le cas. Une réforme pas trop mal accueillie au début était devenue quelque chose qui ne plaisait pas à 6 Français sur 10. Et je crois qu'ils se sont dit, là, si on continue à ce rythme, on va dans le mur. Et moi, je trouve que c'est assez raisonnable de se dire, après tout, on a un peu de temps pour changer l'ensemble d'un système qui concerne tous les Français.
On a beaucoup, beaucoup de temps encore, a dit hier soir Édouard Philippe, quand voilà, en déplacement à Lons-le-Saunier dans le Jura, pour parler de cette réforme.
Je crois que c'est la phrase qu'ils ont le mieux tous apprise. On a le temps. Alors, prenons le temps. Et le temps, ça sert en effet à causer, discuter, expliquer, reculer sur certains plans. Encore une fois, il ne refuse pas de continuer à aller vers la retraite par points.
Ouais.
Là, certains syndicats, ceux qui appellent à la grève du 5 décembre, eux, ils sont carrément contre tout système de retraite par points. Et cela, ça ne changera pas grand-chose à leur opposition. C'est le système même macronien qu'ils refusent. Donc, il n'y a pas tout de même de retrait, là, sur le fond, de la retraite souhaitée.
On va prendre le temps.
Mais alors, on va prendre le temps.
On va prendre le temps. Donc, 2067 pour application pleine, vous nous avez dit, de cette réforme qu'on annonce imminente. On a le temps. Hein. Fanny Guinochet, voilà, c'est quoi les dernières annonces, là, ce fameux document de travail qui a été remis aux partenaires sociaux où on parle, alors, entre autres, de la clause du grand-père. Alors, c'est quoi?
La clause du grand-père, c'est le fait, en fait, que cette réforme ne s'appliquerait qu'à ceux qui rentrent sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquerait pas à ceux qui y sont déjà, c'est-à-dire vous et moi. Parce que nous, on se pose la question. Voilà, parce que nous, on se pose la question de savoir comment il va y avoir bascule entre les deux systèmes. Ça, c'est un des éléments d'inquiétude pour les Français. Là, au moins, bah, vous savez, vous rentrez à partir de 2025 sur le marché du travail et c'est à ce moment-là que s'applique, que s'appliquerait, parce que encore, ce n'est pas encore fait, mais que s'appliquerait la réforme. Donc ça, c'est une des options, c'est une des voies que prend le gouvernement, parce que vous posiez la question, mais je crois que effectivement, le gouvernement a peur. Je pense que le mois de décembre, la perspective de cette grève du 5 décembre avec une conjonction, on a à la fois les transports, mais il va y avoir des gens de la fonction publique, la peur que les enseignants rentrent dans la danse, que certains salariés du privé viennent aussi, est réelle. Et il y a le trauma de 95 qui parle à tout le monde. Mais il y a aussi le trauma personnel d'Emmanuel Macron le mois de décembre de l'année dernière. C'est pas si vieux, souvenez-vous, les gilets jaunes, l'inquiétude, c'est début décembre, on passe un hiver, un mois de décembre terrible. Le gouvernement n'a pas du tout envie que la France soit totalement bloquée au mois de décembre, à un moment qui normalement est un moment un peu festif, où on est dans les fêtes de Noël, ou en tout cas dans des cérémonies, dans un temps de communion, où en tout cas le pays a besoin de se retrouver. Là, c'est l'inquiétude du gouvernement, et c'est pour ça que, alors est-ce que c'est une reculade? En tout cas, c'est une temporisation réelle de dire, on a le temps, on va concerter, on va discuter. Et quand on voit l'état du pays, c'est vrai que actuellement, on est dans un pays qui est fracturé. On voit bien, il y a toujours des débats. Là, on a des débats sur l'immigration, sur le voile. Le pays, actuellement, le climat social est très dur. Donc, Emmanuel Macron et le gouvernement ne veulent pas en rajouter une louche et font piano, piano.
Stéphanie Matteudi, on nous avait dit au début, il y a 42 régimes, on va en faire un universel où 1 euro cotisé donnera les mêmes droits pour tous. On ne nous dit plus du tout la même chose la semaine. Je cite Jean-Paul Delevoye, donc l'architecte de cette réforme, sur France Info. La durée de transition sera adaptée à la situation de chacun. Chacun ira à son rythme. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, nous rajoute que le nouveau système ne pourrait ne pas s'appliquer à certains régimes. On a l'impression qu'on est en train de dire, bon, ceux qui vont beaucoup hurler, on va un petit peu les mettre de côté. Donc, on pense aux régimes spéciaux.
Oui, pour éviter le bouillonnement de ce climat social, effectivement, on fait attention et on ménage les statuts, essentiellement les statuts RATP et SNCF. Donc, on trouve des solutions dérogatoires. Mais ce qui est important, et c'est ce que disait Roland Carol tout à l'heure, c'est que la réforme systémique, la réforme du système, elle est souhaitée, elle est voulue. L'unicité du régime, elle est souhaitée. La retraite par points et par répartition, elle est souhaitée. Tout ça ne change pas. On ne fait pas une réforme paramétrique comme on a l'habitude, où on aménage un peu pour essayer de retrouver un équilibre financier. Non, on fait toujours cette volonté de régime systémique. Le principe est acquis. La volonté de réforme est là.
Mais
ceci dit, on va étendre finalement l'application de cette réforme.
Donc l'extinction des régimes spéciaux sera beaucoup plus étendue dans le temps, beaucoup plus éloignée.
Très largement étendue dans le temps et au cas par cas, selon les différents, j'ai envie de dire, les 42 statuts différents.
Gilles
c'est
Dansard.
Une usine à gaz, de toute façon, c'est une usine à gaz. C'était à la base une usine à gaz et ça ne va absolument pas, cette reculade ne va pas dans le sens de la simplification du tout.
Gilles Dansard, est-ce qu'on a des syndicats, alors tant à la RATP qu'à la SNCF très sur le grill, enfin je veux dire, là, très remonté ce matin encore, on a eu une grève, alors ça n'avait rien à voir, mais à la SNCF, surprise, qui montre que les syndicats sont très remontés en tous les cas.
Il y a effectivement un climat social qui n'est pas bon, et il n'est pas spécifique à la RATP, à la SNCF, on le voit dans les hôpitaux, on le voit aussi dans l'éducation nationale, à l'Office national des forêts, enfin, l'ensemble du secteur public est travaillé par une succession de plans de transformation qui rendent le climat social difficile.
Et cette grève surprise ce matin à la SNCF, elle témoigne d'un climat quand même qui effraie le gouvernement ?
Oui, parce que il y a une forme de résistance, en tout cas de grande méfiance envers les transformations. L'acceptabilité des plans de transformation, certains pans de la fonction publique en connaissent plusieurs depuis 10-15 ans, ne donnent pas des résultats fantastiques et c'est à chaque fois le même discours. Et donc il y a une forme de méfiance, de défiance qui fait que le moindre grain de sable, et en l'occurrence, c'est un accident qui n'a pas fait de victime grave dans les Ardennes, ça peut déclencher des choses par les réseaux sociaux, par des mobilisations. Donc ce climat éruptif, effectivement, fait peur au gouvernement. Les syndicats accompagnent, devancent, ils ne savent pas trop, chacun a un peu sa technique. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, le gouvernement s'est dit il est plus sage de calmer le jeu sur les retraites, qui était peut-être l'élément qui allait fédérer un peu tous les mécontentements. Et donc, on gagne du temps. Mais c'est surtout l'aveu, enfin, qu'il n'était pas prêt. C'est-à-dire, une réforme aussi importante que la réforme des retraites, on ne peut pas l'improviser en quelques mois. Et tous les ministres qui ont été consultés, qui ont interrogé leurs administrations, ont dit en substance au Premier ministre, mais c'est extrêmement compliqué. Ça se prépare, c'est sensible. Donc là, c'est plutôt une décision de sagesse que de se redonner du temps. Mais rien ne dit qu'ils auront le logiciel pour aller au bout. C'est-à-dire que c'est une première étape, on recule, et dans un deuxième temps, il va bien falloir trouver le logiciel pour convaincre, pour gérer les discussions sur les 42 régimes spéciaux.
Pour accoucher d'une réforme.
Voilà, pour accoucher d'une réforme. Donc on est un peu au milieu du guet, mais rien ne dit que ça va déboucher dans X temps. C'est vraiment une période entre deux, avec comme objectif de déminer le 5 décembre.
Oui, Fanny Guinochet.
Alors, des charges en Suède, ça a mis 15 ans. La transformation, enfin, l'adoption d'un système universel par points. Et la Suède est un tout petit pays.
15
par
ans
rapport...
de négociation ou 15 ans
non,
de 15 transformation
Non, 15 ans de transformation. D'accord. Donc, ça ne se fait pas comme ça. En deux ans, c'était extrêmement prétentieux, voire arrogant, d'imaginer mettre en place une réforme de cette ampleur. Macron, quand vous reprenez pendant la campagne, il dit d'ailleurs que ça sera une réforme qui enjambera le quinquennat. Donc il va retomber sur ses pattes, en tout cas dans les éléments de langage, en disant on a repris le temps, on a pris le temps de la discussion, etc. On enjambe. Et là où je rejoins Roland Cayrol, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'abandon pour le moment de cette réforme par point, de cette transformation, mais ça ne se fera pas dans le cadre de la fin de ce quinquennat.
Alors, le gouvernement serait-il donc en train de reculer, hein? Selon le journal Les Échos, on l'a dit, l'application de la réforme pourrait en effet être repoussée, et ce, afin de calmer notamment la colère des syndicats. Vrai ou faux? Le Premier ministre, en tous les cas, ne cesse de répéter que rien n'est encore décidé. Sujet de Émilien David et Pierre Dehorne.
J'ai lu dans la presse que je venais ici pour vous expliquer la réforme des retraites. Alors, c'est pas du tout ça. Je suis venu pour parler de la réforme des retraites, c'est vrai.
C'est à son tour de monter au front. Après Emmanuel Macron, Édouard Philippe prépare le terrain pour la prochaine réforme des retraites. Face à une centaine d'élus et de parents d'élèves dans le Jura, le Premier ministre avance prudemment sur ce sujet hautement sensible.
Oui, il y a un certain nombre de choses dont nous avons dit qu'elles étaient essentielles pour nous et que nous y tenions, et que ça, c'était des choix qui avaient été faits. Mais il y a énormément de sujets, mais vraiment, et je vais essayer de les détailler, énormément de sujets sur lesquels nous n'avons pas choisi.
Beaucoup de points restent donc ouverts au débat. Et selon Les Échos, la mise en œuvre de la réforme pourrait même être reculée. Le Quotidien a eu accès à un document communiqué aux partenaires sociaux par le haut commissaire aux retraites. Un plan B serait à l'étude. Initialement, le gouvernement annonçait une entrée en vigueur du nouveau régime de retraite universel en 2025. La réforme devait concerner les personnes nées après 1963. Mais le système pourrait finalement s'appliquer soit à une génération postérieure, sans plus de précision, soit aux nouveaux entrants sur le marché du travail, ceux qui commenceront à travailler après 2025. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Une option qui embarrasse la ministre de la Santé en charge de la réforme.
Ça nous obligerait à garder 42 régimes pendant 70 ans. En réalité.
Ça n'est pas la bonne option pour vous.
C'est-à-dire que c'est d'une certaine façon amené à ce que la réforme s'applique à la fin du siècle. Parce qu'il va falloir garder 42 régimes pendant toute la durée d'activité et au-delà, évidemment, pour payer les pensions de retraite. Donc, peut-être que certains en rêvent.
Ouais. Ce serait alors un recul du gouvernement sur une réforme majeure. Un rétropédalage qui pourrait désamorcer les mouvements sociaux à venir. Et c'est peut-être l'objectif de l'exécutif. car depuis plusieurs semaines, la contestation prend de l'ampleur. Mouvement des cheminots, des agents de la RATP et même des avocats. Le bras de fer pourrait se durcir. Le 5 décembre, plusieurs syndicats appellent à une grève interprofessionnelle. Pour le leader de la CGT, cet éventuel plan B n'apaise pas les crispations.
On ne dit pas on touche à la réforme. On dit on va sacrifier les générations futures. Le plan B, c'est juste dire oh là là, on ne dit rien parce qu'il se passe quelque chose, la colère monte, on ne dit rien et on repousse un peu. On va essayer d'opposer les uns contre les autres. On dit bah, c'est pas vous qui serez touchés, mais les jeunes générations, bon, il faudra qu'ils subissent. Non, non, le plan B, c'est du flan.
Un éventuel plan B qui fait bondir les Républicains. Pour Éric Woerth, des mesures doivent être prises immédiatement.
Ça posera un énorme problème, qui est le problème du financement. Aujourd'hui, le régime est de nouveau déficitaire. Il a été excédentaire jusqu'à l'année dernière. Et ça, c'est la réforme de 2010. Il l'a été pendant longtemps. On a remonté toute une pente, notamment allongeant l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Il faut évidemment la poursuivre. C'est la responsabilité du gouvernement.
Le gouvernement compte poursuivre les concertations avec les partenaires sociaux pour finaliser le projet de loi sur la réforme des retraites. Il devrait être voté l'été prochain.
Alors, question téléspectateurs, allons-nous transmettre à nos enfants non seulement la dette, mais également une réforme des retraites dont ne voulaient pas leurs parents ? Stéphanie Matodi.
C'est un peu ce que prévoit la clause de grand-père, c'est-à-dire que la réforme, elle a pas d'effet pour le passé, pour le présent, elle en a que pour l'avenir. Donc finalement, nous, on est ravis, en tout cas, moi personnellement, je suis ravie. Je vais être tranquille, je vais peut-être potentiellement avoir une retraite. Mais alors, mes enfants...
Payés par des enfants qui auront des taux de cotisation plus élevés.
Exactement, très élevés, de plus en plus. Et puis en fait, il y a une incertitude. On ne sait pas, parce qu'on sait qu'on va devoir effectivement... Parce qu'encore une fois, cette réforme se fait, donc le régime va être unifié en un régime. Donc il va y avoir de toute façon un rééquilibrage suite à ces 42 régimes à faire entrer dans un. Et en plus, sur la tête, effectivement, de nos enfants qui, eux, vont clairement avoir tous les inconvénients que nous n'avons pas souhaités. Enfin, que nous n'avons pas. Nous, on n'est pas dépendants de ça. Mais bon, en tout cas, ils auront tous les effets de la dette et encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont va se faire ces régimes.
Est-ce que vos étudiants, est-ce que ça bouillonne ? Est-ce qu'on pourra avoir une colère étudiante le jour où ils réaliseront que finalement, cette réforme ne s'appliquera qu'à eux ?
Ah bah clairement, il y a eu 95, mais il y a eu aussi un beau mouvement étudiant, c'était le CPE, où on avait une période d'essai qui durait 2 ans, et pendant 2 ans, bah on pouvait être finalement, on pouvait rompre l'essai pendant 2 ans, ce qui était énorme. Il y a eu une énorme mobilisation. Aujourd'hui, on vient dire à nos enfants, bon bah alors là, s'ils avaient déjà peu d'espoir d'avoir une retraite, on est quasiment en train de leur dire, mais cherchez pas, vous n'en aurez pas.
Ce sera la retraite
jeune. Vous ne ferez que payer les nôtres. Largement. Et donc, on le voit bien, les organisations syndicales d'étudiants rejoignent la manifestation du 5 décembre. Donc, ça s'élargit largement.
Fanny Guinochet, autre hypothèse, quand on lit encore le Premier ministre qui dit « Peut-être le nouveau système ne devra-t-il s'appliquer pour certains régimes qu'à des personnes plus jeunes ?» On a l'impression que, au fond, peut-être que l'une des hypothèses, c'est qu'en 2025, les salariés du privé, eux, auront la réforme. Et qu'en gros, on va épargner les régimes spéciaux parce que les régimes spéciaux, c'est capable de bloquer la rue et de bloquer les transports publics.
C'est le risque. C'est le risque que les salariés du privé soient les dindons de la farce. Parce que c'est plus facile de changer leur régime. D'ailleurs, on l'a vu dans toutes les réformes, les dernières réformes des retraites, ça s'applique essentiellement aux salariés du privé sans qu'il y ait de compensation. Parce que sur les régimes spéciaux, il y a eu... Nicolas Sarkozy a fait une réforme des régimes spéciaux, mais qui a coûté extrêmement cher en compensation et d'ailleurs qui s'étale dans le temps. Donc finalement, plus on attend et plus la réforme des régimes spéciaux qui est déjà en œuvre va faire ses effets et finalement va se tarir. À côté de ça, les salariés du privé, on a vu sans cesse ces dernières années le décalage de l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans le privé, l'âge de départ légal, c'est 62 ans, mais les salariés, en moyenne, partent à plus de 63 ans. Donc déjà, du côté des salariés du privé, il y a une inégalité. Là où c'est compliqué pour le gouvernement, si c'est cette option qu'il choisit, ça va être de nous expliquer que c'est une réforme juste et que c'est une réforme qui s'applique de la même façon à tout le monde, ou une réforme d'équité.
Alors qu'on aura fait que accroître le fossé entre les salariés du privé et les régimes spéciaux.
C'est le risque. Et là, pour le coup, la promesse de Macron, quand il arrive, où il dit 1 euro cotisé, parce qu'on a tous entendu ça, ce mantra, 1 euro cotisé donnera, ouvrira les mêmes droits pour tout le monde, c'est par terre. Et le fait de dire aussi, vous verrez, ces 42 régimes, il y a trop d'inégalités, on va être tous à la même enseigne, c'est par terre. Donc, cette option-là, certes, ça apaisera, mais ça va complètement détruire le message. Et enfin, dernier message, c'était aussi Emmanuel Macron, ces derniers mois, disait tout le temps, il faut qu'on fasse ce que l'on a dit qu'on ferait. Contrairement aux autres présidents, moi, je vais faire ce que j'ai promis. Là, s'il ne fait pas la réforme des retraites, c'est en ça que c'est un enjeu politique très important, cette réforme. S'il ne la fait pas, bah, finalement, il sera comme tous les autres présidents.
Jean-Baptiste, ce matin, Gilles Dansa, il y avait Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, qui disait sur France Info, le problème, c'est que dans la fonction publique, il y a une espèce de contrat social malsain qui consiste à dire, vous êtes mal payé dans votre vie professionnelle, mais vous aurez une retraite plus tôt que les autres et une retraite proportionnellement plus agréable, enfin plus mieux payée que les autres. C'est vrai qu'il y a cette espèce de deal implicite qui est un peu malsain, qui est bizarre en tous les cas. Il vaudrait mieux payer les gens dans leur vie active et qu'ils aient une retraite comme les autres.
Est-ce que ce sont des deals implicites, explicites? En tout cas, ce sont des réalités qui sont perçues comme telles à l'intérieur de ces entreprises et de la fonction publique. Par exemple, la retraite est calculée sur les 6 derniers mois de salaire, sur le niveau de salaire des 6 derniers mois, alors que c'est 25 années pour le privé. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est un deal, mais en tout cas, c'est une réalité. Comme un certain nombre d'avantages dans des entreprises publiques, et les salariés ne sont pas prêts
à renoncer
ou à laisser ça détricoter comme ça sans discussion. Et c'est là où est le problème. C'est-à-dire qu'on en revient à la question du début, c'est-à-dire qu'on ne brutalise pas une société, on ne brutalise pas des entreprises et des groupes sociaux. Et il faut aussi admettre que ces groupes ont des interlocuteurs, ont des représentants, et qu'il faut aussi discuter avec eux. Et il reste une idée quand même dans ce gouvernement que on a la légitimité du suffrage pour nous, on a une réforme qui est juste, et bien on va l'expliquer nous-mêmes. Eh bien, ça ne se passe pas forcément comme ça. Il faut passer par des intermédiaires. Et c'est la dernière étape, d'une certaine façon, de la normalisation du gouvernement Macron, d'accepter de discuter avec des codes, avec des usages, avec des syndicats, avec des professions, plutôt que de soit d'aller à la télévision, soit même, Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire au transport, envisageait d'aller lui-même devant des salariés RATP. Mais on sait que, d'une certaine façon, il prend le risque de griller tout le management et toute la direction de la RATP. Donc, ils sont dans une période où encore un reste de prétention en disant nous, on va expliquer et on va y arriver. Eh bien, il faut y arriver peut-être autrement, en prenant le temps de discuter avec... Il y a des interlocuteurs syndicaux tout à fait valables et capables. Mmh. Mais simplement, il faut changer un peu de logiciel et ça met encore un peu de temps. Ils ont admis qu'on ne brutalisait pas un certain nombre de choses. Maintenant, il faut peut-être changer encore un peu de logiciel.
Oui, Fanny Guinochet.
Et c'est vrai qu'ils changent de logiciel aussi parce qu'ils ont vu la mobilisation au mois de septembre.
La journée d'action
a été extrêmement suivie et ils n'anticipaient pas que ce soit autant suivi. Donc du coup, là, ils se disent, bon, on ne peut pas se permettre de refaire la même chose, surtout que la prochaine mobilisation le 5 décembre, il y a quelque chose d'assez simple. À la RATP, le 13e mois est versé fin du mois de novembre. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez... en tout cas, tenir. Les salariés, entre guillemets, peuvent tenir le mois de décembre. Et ça, c'est une donnée qu'a réalisée le gouvernement, là, récemment, en se disant, il faut quand même faire attention parce que si tout est bloqué au mois de décembre, bah, c'est fichu, quoi. Là, on va devoir même carrément, complètement faire ce qui s'est passé avec Juppé, c'est-à-dire abandonner. Le risque, c'est l'abandon total de notre réforme.
Alors, Roland Querol, ça veut dire que le quinquennat est terminé, il ne peut plus rien faire. Là, c'est décembre 95, version 2019.
Bien sûr que non. Encore une fois, jusqu'à maintenant, on n'est pas au mauvais pronostic de Fanny. Ils sont encore des gens qui tiennent au pouvoir à la retraite par points et par répartition. Et ils sont persuadés qu'ils vont convaincre l'opinion que c'est une réforme juste. Pas seulement équitable, mais carrément juste. Seulement, il y a du boulot pour faire ça. Il y a d'abord le problème des régimes spéciaux. Vous avez, c'est en effet ça qui bloque le plus. Il y a une espèce de paradoxe, parce que le régime général, c'est 70% des Français. Ça explique sans doute que dans les sondages d'opinion, les Français, ce avec quoi ils sont le plus d'accord, c'est la fin des régimes spéciaux. Mais il se trouve que les gens qui en bénéficient, eux, ils ont les moyens de bloquer le pays. Et on est devant cette espèce de contradiction. On ne peut pas laisser bloquer le pays par des gens qui, de toute façon, auront à souffrir de la réforme, alors qu'on a une base d'opinion qui n'est pas nulle pour faire passer notre réforme.
Vous en êtes sûr, ça, que les Français soutiennent l'idée de faire cette réforme?
Je dis qu'ils la soutiennent moins qu'il y a 10 mois.
D'accord.
Ça a baissé parce que, tout à coup, des tas de motifs anxiogènes sont apparus à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les discussions entre les gens, que chacun commence à se demander comment ça va être pour moi, pour ma catégorie, pour ma profession. Et plutôt qu'une angoisse généralisée, c'est plutôt une espèce de non-compréhension de ce qui est exactement en train de se faire. Les gens ne savent toujours pas ce que ça veut dire. Et ces fameuses questions qui reviennent tout le temps, qui va définir le point, combien va valoir le point, est-ce qu'il y a ou pas des points gratuits pour les gens qui ont des carrières hachées, pour les femmes avec leur période de grossesse? On entend dire des choses et on ne sait pas. Il y a des choses qui ont été annoncées par le gouvernement qui ne sont pas dans le rapport Delevoye. Et donc c'est très difficile. On peut difficilement faire passer au forceps, et même par la négociation en ce moment, des réformes qui sont si peu comprises par l'opinion. Donc il faut tenir et prendre son temps, et il faut discuter. C'est très difficile de discuter avec les organisateurs du 5 décembre. Ils sont contre le système de la retraite par points. Tous ceux qui appellent, ils sont contre le système de la retraite
par
points.
Sauf la CFDT, voilà.
Mais elle n'appelle pas.
Ouais.
Donc il y a la CFDT, il y a l'UNSA, il y a peut-être la CFE-CGC, voilà, il y a les syndicats dits réformistes. La CFDT, elle est pour la retraite par points depuis 2003, et bien avant que Macron sache que ça existait. Donc ce serait absurde de dire on est contre ce système, ils sont pour. Mais après, il faut discuter. Et à force de discuter avec les syndicats réformistes, je crois que c'est ça l'idée. On va convaincre en même temps la majorité de la société que ça sera une réforme juste. Pour le moment, personne n'en sait vraiment rien.
Sur la perception dans l'opinion publique, il y a quand même un raidissement. Sondage Elabe, 65% des Français soutiennent les mobilisations contre la réforme des retraites.
Oui.
On n'est pas très loin de...
Ça n'a rien à voir. Les Français soutiennent toujours les mobilisations. Toujours, quelle qu'elle soit, le score le plus faible, sauf pour les grèves de la SNCF, le score le plus faible depuis 20 ans, 30 ans, d'approbation des mobilisations, c'est 65%. On aime bien que les gens se battent pour leur beefsteak et sans doute un peu pour le nôtre. Donc ça ne veut rien dire. Il faut prendre les réactions des Français par rapport aux différents points que représente la retraite. Et là, on a des chiffres un peu moins forts.
Non, mais on essaie de jauger le soutien du public si jamais il devait y avoir une grève reconductible à partir du 5 décembre. Est-ce que, comme en 1995, on avait dit que les Français faisaient grève par procuration et étaient bien contents qu'il y ait des cheminots dans la rue pour bloquer le pays, est-ce que ce scénario cauchemardesque pour le gouvernement est susceptible de se répéter?
Vous savez, on n'en sait rien. Moi, je n'y crois pas trop. Mais après tout, on pourrait répondre comme François Fillon, en disant, moi, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue et j'ai fait passer ma réforme. Il ne faut pas avoir peur de 2,5 millions de personnes dans la rue. Ça n'est, après tout, dans un pays de 67 millions d'habitants, qu'une minorité. Et elle a bien le droit de dire qu'elle n'est pas d'accord. Mais les réformes ne se font pas pour les minorités. Ce n'est pas non plus complètement faux.
Stéphanie Matteoni.
C'est maladroit. Alors, en plus, on annonce un plan B, mais finalement, on n'a pas vu le plan A.
Et ça, faut,
bah oui.
Le plan A,
le plan A, il était à peu près organisé depuis 18 mois. Et ça, je pense
en
que les Français...
en 2025, donc.
C'est ça. Les Français s'étaient habitués, quelque part, quand même. En tout cas, ils commençaient à s'habituer à une certaine pédagogie, à une certaine organisation. Jean-Paul Delevoye faisait le boulot. Et du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on ne sait pas marquer l'opinion. On ne sait pas dire ce qui va se passer. Et si la mobilisation du 5 décembre, je pense qu'on peut dire qu'elle va être massive, mais on ne sait pas dire si l'opinion va le suivre. Parce que depuis 18 mois, on commence à expliquer clairement les choses et les enjeux de cette réforme systémique. Accepter, pas accepter, peu importe. On commence à voir un petit peu plus clair là-dedans. Ce que l'on ne sait pas, c'est Émile, qui a fait 5 expériences professionnelles tout au long de sa carrière professionnelle entre l'Opéra de Paris, la SNCF et 10 ans d'entreprise dans le privé, il ne sait pas calculer sa retraite. Et lui, ce qu'il veut, c'est savoir calculer sa retraite. À aujourd'hui, à demain, à dans 43 ans.
Mais on pourrait vous rétorquer qu'il ne le sait pas plus calculer sa retraite aujourd'hui avec le système actuel. Tout le monde est un peu perdu.
Oui, mais on peut. On a des indicateurs quand même pour le calculer. Faut pas. Oui, quand même.
Je vais juste ajouter une chose, un petit point, c'est que il y a parfois une habileté assez peu efficace de la part du gouvernement. Quand vous lisez ce plan B, enfin le texte envoyé aux organisations sociales qu'a révélé les Échos, il n'y a pas un plan B, il y en a deux. Il y en a un qui dit, alors, on va entrer progressivement. Normalement, les gens, ils entrent à partir de la date de naissance 1963. Mais si on prend des exemples, les policiers, ça pourrait être 68, pour qu'ils gardent une partie de leurs droits acquis. Et les conducteurs de train, 73.
On ménage les régimes spéciaux.
Voilà. On ménage un niveau plus lentement, mais on donne des dates. On entre quand même tout de suite dans le système. Et puis, ils disent, il y a une deuxième version, c'est celle qu'on a abordée tout à l'heure, c'est à partir de 2025, ceux qui entrent dans le travail seront tous concernés. Il est évident que si vous avez une proposition qui est garder tout et aller un peu plus doucement, et l'autre qui est allé beaucoup plus doucement, la première sera lue par personne. Je suis très étonné de cette façon de négocier.
Sauf que Eric Woerth disait, alors donc, on fait quoi avec les déficits, hein? En 2025, il y a 10 milliards de déficits.
Ah oui, ça, de toute façon, il faudra régler ce problème qui n'a aucun rapport avec la réforme. Qui est, là, on reste dans le système actuel et qu'est-ce qu'on fait? Et avec des syndicats, parce que vous avez vu les mots d'ordre de la CGT quand même. Il y en a qui sont quand même vraiment arc-boutés sur une situation qui n'existe même plus. La CGT réclame aujourd'hui la retraite à 60 ans à taux plein, 60 ans. Et ils réclament, et pour le financement, ils disent, il faut faire payer les riches et augmenter les salaires. Ça ressemble quand même à des vœux pieux dont ils savent parfaitement que ça n'aura pas lieu. C'est juste une façon de dire non, non et non.
Mais du coup, ils rallient les mécontents avec des messages extrémistes.
Peut-être.
Alors, c'est le monsieur retraite du président, Jean-Paul Delevoye, 72 ans, en charge depuis des mois d'un des dossiers les plus sensibles du quinquennat. Et pour cause, ce vieux routard de la politique a fait de la négociation sa spécialité. Sa mission, organiser la concertation pour déminer le terrain. Son portrait, Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
Difficile de ne pas le remarquer pour son premier conseil des ministres. 1m93. Une carrure impressionnante pour celui chargé de porter la lourde réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye fait son entrée au gouvernement. Une promotion pour l'homme qui sillonne la France depuis bientôt 2 ans. Car la réforme des retraites passe d'abord par le terrain. Pour ce gaulliste converti au macronisme, il faut appliquer la méthode de la campagne présidentielle, celle de la concertation citoyenne. Ce jour-là, Jean-Paul Delevoye organise un atelier participatif dans le nord du pays.
Vous, vous êtes venu, c'est bien en tant que jeune.
Objectif, miser sur la pédagogie pour déminer le chantier de cette réforme explosive qui inquiète les Français.
Que tout au long de votre vie, vous soyez agriculteur, artiste, fonctionnaire, chef d'entreprise, vous aurez une acquisition de points en fonction des revenus, vous aurez un sac à dos social qui fait que tous les ans, vous aurez un relevé. Vous irez à l'étranger, etc. Il vous accompagnera, quel que soit, et vous n'aurez plus à avoir 5, 6, 7, 8, 9 régimes.
Les retraites, un sujet que ce routard de la politique, âgé de 72 ans, connaît sur le bout des doigts. 2003, Jean-Paul Delevoye est ministre de la fonction publique dans le gouvernement Raffarin. Avec François Fillon, il est chargé d'aligner le régime des fonctionnaires sur celui du régime général. Des mois de conflit, mais déjà un leitmotiv pour le ministre, le dialogue.
Bien, je crois qu'il faut qu'au contraire, aller un peu plus encore sur le terrain, peut-être sous d'autres formes, peut-être en sortant des choses, des débats institutionnels pour avoir un contact direct.
En 2016, Jean-Paul Delevoye, ancien de l'UMP, devient l'un des tout premiers marcheurs et l'un des hommes clés du dispositif de la présidentielle. Une proximité avec Emmanuel Macron qui continue aujourd'hui et lui permet d'obtenir un arbitrage du chef de l'État en sa faveur au printemps dernier, lorsque certains ministres prônent dans les médias un recul de l'âge de la retraite.
J'ai vu émerger ce débat, ce n'est pas le mien. Mais si nous devions faire évoluer notre réflexion au-delà de cette question, ce sera en toute transparence et non pas au travers d'une déclaration ou d'une émission.
À À ce moment-là, Jean-Paul Delevoye aurait carrément mis sa démission dans la balance, selon le Canard enchaîné. Pour lui, pas question de revenir sur l'âge de recul, sur lequel il a fondé toutes ses négociations avec les syndicats. Des syndicats qu'il rencontre tous les 15 jours et dont il ne veut pas perdre la confiance, comme il le martèle régulièrement.
Moi, je suis très attentif à l'expression syndicale. Et nous avons notre comme objectif de répondre à toutes leurs inquiétudes.
Jean-Paul Delevoye, négociateur en chef des retraites, capitaine d'une réforme à haut risque, sans doute l'un des dossiers les plus sensibles du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Alors, question téléspectateur. Pourquoi ne pas demander aux Français par référendum s'ils sont toujours d'accord pour financer les régimes spéciaux avec leurs impôts ? Fanny Guinochet, ils sont très critiqués, ces régimes spéciaux ?
Ils sont critiqués et le référendum, pour le coup, c'est toujours un instrument extrêmement dangereux.
Mais on a une idée de ce que ça pourrait donner comme
Alors, j'en sais rien du tout. Puis alors, moi, ce n'est pas du tout mon métier.
70%
des gens critiquent les régimes spéciaux.
70% des gens diraient non, on ne veut pas payer d'impôts pour les régimes spéciaux.
Oui, mais et après, qu'est-ce qu'on met dans régimes spéciaux aussi ? Il y aurait la question parce que vous avez vu dans les gens qui se sont mobilisés là, au mois de septembre, vous avez des catégories professionnelles comme les professions libérales, les avocats, les kinés, qui ne coûtent rien, mais qui ont leur régime quelque part à part, qui est excédentaire et qui est autonome, voilà, exactement, qui est autonome et qui s'auto-finance et qui est même excédentaire. Et eux, ils ont dit, attendez, le système universel, nous, on a très envie de garder notre régime un peu particulier. Autonome. Alors, il ne pèse pas sur la collectivité comme une grande partie des régimes spéciaux, notamment dans les transports.
Voilà, Gilles Dansart, la RATP, de mémoire, coûte 700 millions d'euros chaque année en contributions publiques. Hein.
Oui, il faut compenser, hein, voilà. Y compris parce que le progrès technologique a tendance à faire baisser les effectifs.
Il y a moins de cotisants. Voilà.
Donc il faut des compensations. C'est le même principe à la SNCF. C'est une forme de solidarité nationale, de péréquation entre l'ensemble des professions.
Et les cheminots à la RATP comme à la SNCF estiment que c'est un dû et en aucun cas estiment que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a un contrat passé. Et que dans leur contrat, ils ont droit à la retraite plus tôt et une retraite bien valorisée.
Alors, il y a déjà eu quelques modifications. Mmh. Hein, ils ont déjà accepté de partir un peu plus tard. Donc, il ne s'est pas rien passé depuis 25 ans. Mais simplement, ils considèrent qu'il y a un certain nombre de servitudes de service public sur les horaires, d'accord, sur les jours travaillés, etc., qui justifient d'avoir un régime de retraite différent.
Même si, alors, dites-moi si je dis une bêtise, mais avec la réforme de la SNCF qui a été adoptée l'an dernier, le statut de cheminot s'éteint au 1er janvier. Donc la réforme, la retraite telle qu'on la connaît à la SNCF disparaît pour les nouveaux entrants à partir du 1er janvier.
Le statut ne disparaît pas, puisqu'il ne disparaîtra que quand les derniers embauchés...
Oui, mais pour les nouveaux entrants.
Et pour les nouveaux embauchés à la SNCF au 1er janvier 2020, là, ils passeront dans un régime dit de branche, donc commun à toutes les entreprises de la branche ferroviaire. Mais le statut, il restera encore un certain nombre de temps. Ouais. Et c'est bien cette coexistence-là aussi qui pose problème. C'est-à-dire entre des gens qui vont être contractuels dans un régime de branche et des gens sous statut avec des conditions particulières. Et donc, ce n'est pas non plus extrêmement facile à gérer pour des patrons d'entreprise pendant quelques dizaines d'années.
Comment le qualifieriez-vous, l'ambiance, l'atmosphère à la SNCF en ce moment ? Ils sont prêts à bloquer la France ? Je dis ça parce qu'il y a un nouveau patron qui a agacé les syndicats en disant « Bon, maintenant, il va falloir se mettre au travail. Vous allez, quand c'est la gare est sale, vous allez passer un coup de balai », en disant que les cheminots devaient être plus polyvalents. C'est mal accepté.
Pour l'instant, il est très prudent, mais effectivement, il défend la polyvalence. La polyvalence a existé pendant longtemps à la SNCF. Et puis, au fur et à mesure des décennies, on a un peu plus spécialisé. On a organisé l'entreprise, ce qu'on appelle en silo, c'est-à-dire en spécialisant beaucoup les activités. Et aujourd'hui, le futur patron dit, bon, il faut retrouver un peu de souplesse.
Parce que celui qui est chef de gare, il peut vendre des billets, passer un coup de balai.
Voilà, tout ça, c'est un peu rigide. Voilà. Ça nous coûte très cher. Donc, on va retrouver un peu de souplesse. Et là, bon, c'est sûr que ça provoque déjà quelques mécontentements. Mais on peut considérer qu'après 10, même 20 ans, presque 30 ans de Guillaume Pepy, les syndicats disent au futur patron, attention, on est là. c'est une forme de pression avant son arrivée au 1er novembre. Donc il y a un jeu tactique aussi de se positionner et de dire, bon, nous, on en a, entre guillemets, soupé de 10 ans, de 15 ans de réforme. Et bien là, maintenant, nous, on montre qu'on est là et c'est une sorte d'avertissement avant la prise de fonction du futur président.
Roland Cayrol, cette réforme des retraites, on voit, elle est compliquée, elle est ambitieuse. Comment est-ce que l'aile gauche de La République En Marche est à l'aise avec cette réforme, avec cette idée de réformer les retraites telles que les schémas circulent?
Je crois que oui, c'est pas là-dessus que se font les désaccords au sein de la majorité et au sein du groupe La République En Marche. C'est plutôt sur des problèmes sociétaux, sur des problèmes de l'immigration. Bref, c'est pas tellement là-dessus, parce que là, ils ont sucé le programme, le biberon du programme macronien pendant toute la campagne présidentielle. Ça faisait partie des prérequisites pour être député macronien. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de discussions là-dessus.
La droite, elle, son point de vue, c'est qu'il faut la faire, cette réforme. Donc, c'est compliqué pour elle. Elle doit soutenir une réforme impopulaire, si je comprends bien.
La droite, elle est pour une réforme paramétrique, c'est-à-dire un décalage de l'âge légal. Et ouais. Pour le coup, Emmanuel Macron tient sur sa ligne, c'est-à-dire on ne touche pas aux 62 ans. C'est ce qu'a très bien rappelé votre reportage, où on voit qu'à un moment, il y avait une demande, il y avait certains ministres, Matignon était tenté par un décalage de l'âge de départ. Et finalement, Delevoye aurait mis sa démission en balance. Et finalement, Emmanuel Macron a tranché. Et au final, sur la réforme, d'ailleurs, c'est lui qui tranchera. Il a dit non, on ne touchera pas aux 62 ans. On verra, on met en place un âge pivot, on mettra d'autres dispositifs. On en reparle un peu, mais c'est là aussi où sur la pédagogie, c'est extrêmement compliqué. Vous disiez tout à l'heure, le message est brouillé, et finalement, quand on regarde les sondages, on a moins d'adhésion aujourd'hui. Mais il y a eu tellement d'allées et venues, on vous parle un coup de l'âge pivot, on vous parle un coup d'une date 2025, mais qui ne s'appliquerait pas pour tout le monde. C'est extrêmement fouillis. Et je crois que là, le gouvernement est en train de perdre la bataille de la communication, ou en tout cas, essaye de la reprendre, et à juste titre, parce qu'il y a des choses très bien dans ce qui est sûr, ou en tout cas des choses qui devraient être populaires. Par exemple, Emmanuel Macron a dit le système universel, il y aura 1 000 euros, on n'aura pas de pension de retraite en dessous de 1 000 euros. Ça devait être extrêmement populaire, mais en fait, c'est passé complètement sous le radar.
Les gens ne savent pas.
Les gens ne savent pas, les gens ne l'ont pas imprimé, parce que derrière, on voit bien qu'au sein du gouvernement aussi, on a vu l'hésitation d'Agnès Buzyn dans votre reportage, entre Matignon, entre ceux qui disent, attention, il y a quand même, cette réforme, elle n'est pas pour faire des économies, mais quand même,
mais
on a un système qui n'est pas à l'équilibre.
Le message est
extrêmement brouillé.
Pour la faire passer, on a l'impression que cette réforme, il faut compenser et donc donner des cadeaux. Alors, il va falloir compenser notamment les enseignants en disant pour que vous ayez une bonne retraite, il va falloir revaloriser vos salaires, etc. Et donc, c'est une réforme qui va coûter alors qu'il faut faire des économies.
C'est un peu le manuel, la recette de la réforme. En général, les réformes, elles coûtent toujours un peu au début et un peu moins après. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur?
Comment faire des économies en dépensant plus, quoi.
Philippe Aguillon, qui est un économiste qui souffle à l'oreille des Macron, en tout cas qui a beaucoup soufflé au moment de la campagne, dit lui-même, il va falloir accepter de payer, parce que vous preniez l'exemple des enseignants, mais les enseignants, ils ont envie d'avoir leur prime intégrée dans la prise en compte de leur salaire pour leur retraite.
Ils en ont très peu.
Voilà, et du coup, les enseignants, c'est quand même un... Ils sont nombreux, c'est un des budgets conséquents de la République. Donc, s'il y a cette bascule-là, ça va effectivement être, en tout cas, au moins au début, un coût pour les régimes.
Donc,
c'est peut-être
l'une des raisons de plus qui fait qu'on va prendre son temps. Parce qu'on a bien compris que cette réforme allait coûter.
Il y a cet arbitrage-là derrière à prendre, et c'est évident que ça pèse lourdement dans les décisions.
Gilles Dansard.
Et la confusion naît aussi du fait que chacun fait ses calculs. C'est-à-dire qu'il y a un âge à 62 ans, mais une grande partie des salariés du secteur privé, ils vont sur les moteurs que leur présentent les caisses de retraite, etc. Ils calculent, ils disent, si je pars à 62 ans, j'ai une décote de 15, de 10%. Donc ils savent très bien que c'est un âge déjà de fait assez virtuel, parce que les études durent plus longtemps, parce qu'ils ont des interruptions de carrière, etc. Donc il y a un trouble assez important qui fait que, effectivement, la bataille de l'opinion est loin d'être gagnée.
Et Stéphanie Matuidi, c'est vrai qu'en général, une réforme, théoriquement, on devrait... à se demander est-ce qu'elle est bonne pour l'intérêt général. Mais là, c'est tellement important, la retraite, pour chacun, qu'on ne regarde que son petit intérêt personnel. Et si on est perdant, on crie très fort.
Mais c'est normal. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est humain. Et puis, on ne parle pas du régime général. Enfin, si, on a parlé du régime général, mais on peut en parler. Mais ceci dit, ce qui est important, à mon avis, demain, c'est que le salarié, il ne reste plus, de toute façon, c'est 43 ans dans la même entreprise. Ça va complexifier aussi les choses, parce que maintenant, n'importe quel individu qui va entrer sur le marché du travail, il va avoir à peu près 7 vies professionnelles différentes. Donc, c'est à peu près c'est ce que disent les sondages. Ouais. Ce qui fait que je vais être aujourd'hui auto-entrepreneur, et puis après, dans une entreprise, et puis peut-être que j'aurai le rêve d'être conducteur, finalement,
donc,
TGV.
Donc, ça change vis-à-vis de la retraite,
ça. Eh bien, ça change qu'à un moment, on aimerait bien qu'on puisse se dire que toutes les activités sont prises en compte.
La retraite à point.
La retraite à point, je suis d'accord. ce soit facile à calculer. Donc, encore une fois, cette réforme, elle est importante pour ça. C'est que la vie des salariés va changer et que, peu importe le régime, toutes mes activités professionnelles pourront être prises en compte, y compris, au passage, pour les fonctionnaires. Là, c'est la question des primes. Dans le secteur privé, on peut compter notre salaire et les primes. Dans les fonctionnaires et chez les enseignants, on ne les compte pas. C'est important, ça. Je veux dire, ce déséquilibre, encore une fois, cette réforme systémique peut aménager cela. Donc, elle est, on est quasiment, même en prenant son temps, obligé de la faire parce que la société...
Donc, elle est nécessaire, mais techniquement compliquée à mettre en œuvre.
Elle est très compliquée, elle est très longue, mais elle est indispensable vis-à-vis des futurs, des 7 vies, j'ai envie de dire, des individus à demain.
Alors, je crois qu'on la complexifie un peu plus... en inventant des principes qui n'ont peut-être plus lieu d'être avec la retraite à point. Moi, je ne comprends pas à quoi sert l'âge légal avec une retraite à point. Je m'expliquerai.
Si on a des points, on les liquide quand on veut. Et si on a peu de points, donc on part tôt avec peu de retraite.
Et oui.
Mais alors, le gouvernement
et ça,
dit,
même Jean-Paul
si
Delvaux
vous laissez
n'a pas l'air
le
de l'avoir
choix
intégré.
Aux gens de partir quand ils veulent, et ça s'est fait dans certains pays, les gens partent très tôt et ils ont des retraites de misère, n'est-ce pas ?
C'est le risque. C'est le risque. Mais après, l'inquiétude du gouvernement, c'est qu'après, les gens partent trop tôt et tombent dans les minima sociaux et donc que ça soit coûteux pour les finances publiques. C'est ça l'inquiétude du gouvernement, d'où le maintien de l'âge légal à 62 ans.
Mais qui est de plus en plus virtuel, comme disait Gilles.
Qui est de plus en plus virtuel, on est d'accord.
Sinon, le minimal social deviendrait la retraite de tout un chacun.
Voilà. Retraite à la carte.
Alors, c'est un paradoxe auquel se heurtent tous les gouvernements. Comment expliquer aux Français qu'ils doivent travailler plus longtemps alors que les entreprises rechignent, on le sait, à embaucher les seniors ? Le taux d'activité des 54-64 ans en France est l'un des plus faibles en Europe. Barbara Steck et Diane Cacciarella sont partis à la rencontre de ces seniors qui se battent chaque jour pour travailler.
À 50 ans, retour sur les bancs de l'école pour Vera Colombani.
J'ai toujours aimé l'école et c'est comme un rêve pour moi actuellement. Donc je suis super contente.
Cette biologiste surdiplômée a connu des années difficiles. Après la naissance de son troisième enfant, Vera n'a pas réussi à réintégrer le monde du travail. Mais depuis 11 mois, entourée de jeunes geeks, elle s'initie au codage informatique.
Ça faisait quelques années que je n'avais pas travaillé, j'avais perdu confiance en moi. Et vraiment, le jour où j'ai reçu le mail de Pôle emploi qui me proposait de tenter l'expérience de l'école 42, c'était une bouée de sauvetage. Je me suis accrochée et j'ai dit j'y vais, alors que je détestais ça. Je n'aimais pas du tout l'informatique.
Et pourtant, l'école 42, en partenariat avec Pôle emploi, a fait naître en elle de nouvelles ambitions. Vera espère travailler dans l'intelligence artificielle.
Il faut juste que les recruteurs comprennent que ce n'est pas parce que si on a 50 ou 60 ans qu'on n'est plus compétent. Ce qui compte vraiment, c'est l'envie de donner, de travailler et tout.
À l'autre bout de la France, en Corrèze, Simone Ginet, 60 ans, a elle aussi connu une longue période de chômage après un licenciement brutal.
Après, c'est dur, quoi. Surtout qu'on était deux. On était deux, mon mari travaillait avec moi dans la même entreprise. Ouais, on a fermé l'entreprise, on l'a ouverte, on l'a fait fructifier et on l'a fermée. Et bien, je vous dis qu'après, c'est terrible, ça.
Après 32 ans passés dans une entreprise de pâtisserie surgelée, Simone s'est lancée dans la recherche d'un nouvel emploi. Elle était loin d'imaginer les difficultés et la dureté de certains recruteurs.
Vous envoyez des CV, mais très peu de réponses, hein. Très très peu. Ou alors il faut toujours relancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il n'y a pas de réponse. Dans un forum, on m'a carrément dit que j'étais... On m'a bien fait comprendre, et, mais madame, vous avez vu votre âge ? J'en ai pas eu beaucoup comme ça, heureusement, parce que ça, vous n'avez pas le moral, vrai. Je vous dis, quand vous sortez, c'est... Hein ? Ah bon, t'as pris une claque, là.
Loin de se décourager, Simone a décidé de se reconvertir dans l'aide à domicile.
Allez, on y va. C'est parti.
Simone travaille entre 28 et 30 heures par semaine, payée 800 euros par mois. Un salaire divisé par deux par rapport à son emploi précédent.
J'avais d'autres avantages aussi. On avait le 13e mois, on avait beaucoup de choses. Là, c'est déjà bien qu'on travaille, là.
Ah, super, on a une bonne table.
Retour à l'école 42. Vera et ses camarades de la promotion senior se retrouvent pour déjeuner.
Je suis pas papy, moi. Je suis beau et jeune.
La formation se termine bientôt. L'heure est à la recherche du stage de fin d'études. L'âge reste la principale inquiétude.
J'essaie de m'orienter vers des start-up où je regarde, il y a une douzaine de personnes qui ont tous 25 ans. Je me dis, est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça ferait une personne qui a 50 ans au milieu de 12 personnes qui ont 25 ans ? Je ne sais pas. Donc on sent que, on se dit, si vraiment ils voulaient travailler avec des personnes qui sont âgées, il y aurait eu une ou deux. Mais il n'y a personne, ils ont tous 25 ans dans la start-up.
Le retour à l'emploi pour les seniors, une inquiétude légitime. En France, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans a été multiplié par deux en 10 ans.
Roland Cayrol, on était tous touchés par ce reportage exceptionnel parce qu'on voit bien la difficulté de retrouver un emploi quand on est senior. Et on s'aperçoit, j'ai cette chose idiote, mais qu'un emploi, c'est plus qu'un emploi.
Ah oui, bien sûr. Quand on parlait avec les gens qui sont au chômage, en recherche d'emploi, ils vous disent qu'ils ont perdu leur dignité en n'ayant plus de travail. Quoi. C'est soi-même, c'est sa personnalité qui est mise en cause. On a le sentiment qu'on n'a pas seulement perdu son emploi, mais qu'on a été personnellement jeté, quoi, et retrouver un emploi, c'est d'autant plus dur. Alors là, on a vu des cas où des gens arrivent à retravailler, que quand même, évidemment, les gens dont il est question, les seniors, ils sont dans la dernière partie de leur carrière, ils coûtent plus cher que les jeunes qu'on embauche. Donc les entreprises, elles ont une forte pression financière pour se débarrasser de ceux qui sont en fin de carrière, pour prendre des gens moins chers. Et ça se voit très vite sur les comptes d'exploitation.
Question téléspectateur, si on s'attaquait au chômage, ne serait-ce pas un début de solution ? Fanny Guinochet, pourquoi est-ce qu'on embauche moins des seniors ? C'est pour des questions de coûts, c'est ça ?
Alors, il y a des questions de coûts, évidemment, et puis il y a des questions de représentation sociale, de culture sociale, où on est dans l'ère du jeunisme encore, il ne faut pas se leurrer, quels que soient les métiers, les seniors, vous êtes un peu plus fatigués, vous mettez peut-être un peu plus de temps à comprendre certaines choses, et ça, les entreprises, aujourd'hui, elles ne veulent pas en entendre parler, pour la plupart. Donc, on est dans un paradoxe, vous avez des patrons qui disent on a du mal à recruter, et puis de l'autre, des gens qui sont plein de bonne volonté, on le voit, mais qui envoient des CV qui ne sont pas reçus ou à qui on fait comprendre qu'ils ne vont pas s'adapter aux nouvelles techniques. Donc on n'a pas trouvé en France la façon de prendre les choses de la bonne façon, c'est-à-dire que vous avez un MEDEF qui aujourd'hui dit on va faire des choses pour mieux intégrer les seniors, mais très concrètement c'est très difficile, ne serait-ce que le cumul emploi-retraite, ou en tout cas le fait de partir à la fin de sa carrière, d'aménager des temps, d'aménager du télétravail, d'aménager d'autres formes d'organisation de travail. Pour des gens qui sont en fin de carrière, ça peut être une voie extrêmement efficace, même pour l'entreprise. Ben souvent, les patrons, ça oblige, ou en tout cas les employeurs, ça bouscule un peu les organisations, et on n'est pas prêt. Il y a d'autres pays, du côté des pays nordiques, où ils ont beaucoup plus d'avance par rapport à ça. Et c'est dommage parce qu'il y a des situations aussi de rupture. On voit dans des entreprises où vous avez beaucoup de jeunes, vous avez moins de seniors et on rappelle des seniors où à un moment on arrive à un point en disant attendez, les jeunes c'est super, ils vont vite, ils ont plein de qualités, mais les seniors aussi en ont, ils savent manager les jeunes, ils savent transmettre un certain nombre de choses, ils savent aussi anticiper des difficultés que les jeunes n'ont pas l'expérience. Et on rappelle, il y a certains métiers, vous prenez la soudure par exemple, enfin, il y a plein de métiers où on rappelle des seniors, des gens plus âgés, pour leurs compétences. Donc on n'a pas trouvé actuellement, mais le résultat, c'est que vous avez, vous l'avez rappelé, un taux de chômage des seniors. Quand vous êtes au chômage et que vous avez plus de 55 ans, c'est extrêmement difficile. C'est les gens qui restent le plus longtemps au chômage et souvent, quand vous reprenez un emploi, c'est souvent par des biais d'emplois précaires, c'est des CDD, c'est ce qu'on appelle des emplois de portage salarial avec des systèmes un peu hybrides où vous n'êtes pas salarié de l'entreprise, et puis avec des salaires qui sont un peu plus bas.
Parce qu'en même temps, Gilles Dansart, on se dit que c'est un peu tôt, 55, 56 ans, 57 ans pour partir à la retraite. D'ailleurs, que font les cheminots quand ils partent ils partent réellement à la retraite ou ils entament une nouvelle carrière professionnelle ?
Il y a tous les cas. Hein. Il y a des gens qui partent à la retraite parce qu'ils sont usés. Quand on travaille pendant 30 ans en 3-8 dans un atelier de maintenance, bon, on n'essaie pas de continuer à travailler après parce qu'il y a des conditions de travail difficiles. Et il y en a d'autres qui continuent à travailler après dans le privé ou qui font des petits boulots. Il y a un peu tous les cas. Mais surtout, le problème, c'est qu'il y a eu une forme d'obsession des effectifs et de la masse salariale. C'est-à-dire que l'ensemble des directeurs financiers des DRH voulaient faire baisser les effectifs parce que c'était une sorte de preuve de bonne santé. Et on ne s'est pas aperçu que finalement, on compensait par des intérimaires, par des contractuels, voire des consultants pour un certain nombre de missions, et que la baisse des effectifs, parfois, cachait une baisse de productivité, une baisse de qualité, etc. Et donc, les seniors, eux, au contraire, contribuent d'une certaine façon, par leur expérience et leur connaissance, à finalement mettre du liant dans l'entreprise, etc. Donc la balance, comme le disait Fanny, elle est mal réalisée parce qu'on a vraiment voulu absolument baisser facialement, pas seulement dans les entreprises privées, mais aussi dans la fonction publique, baisser le nombre de ce qu'on appelle les ETP. Il fallait absolument les équivalents temps plein, il fallait baisser les ETP.
Ce sont souvent les seniors qui trinquent.
Voilà, et c'est les seniors qui trinquent parce qu'ils sont plus chers.
Stéphanie Matteudy, on sait que la France est mal... Alors même si ça progresse, hein, mais on sait qu'on est en dessous de la moyenne européenne, oui. C'est quoi? C'est essentiellement une question de mentalité? C'est le regard que la société française porte sur les seniors qui fait qu'il y en a moins en activité? Ou c'est des questions de chômage? En Allemagne, il n'y a personne à embaucher, donc on embauche ce qu'on trouve.
Non, je pense que c'est vraiment une question un peu culturelle, un peu de regard. Et les entreprises n'ont pas, de toute façon, pris en compte la question de la seniorité, finalement. Il n'y a pas de plan senior dans les entreprises. C'est ce qui manque actuellement. Il y a un tiers des salariés qui se sentent discriminés, des salariés âgés. Âgés, senior, c'est 45 ans. Hein.
Ah oui, dès 45 ans.
Ouais. Dès 45 ans, il y a un tiers qui se sent discriminés, qui ne retrouvent pas de boulot. Donc, il ne faut quasiment pas partir. Le souci, c'est qu'effectivement, Gilles Dansart le dit très bien, en ce moment, dans les entreprises, et surtout dans les grosses, on réduit les frais de fonctionnement. Et donc, les frais de fonctionnement, c'est les frais de personnel. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des accords de maintien dans l'emploi, on fait des plans de départ volontaire, on fait des plans sociaux. Et qu'est-ce qui part? Ceux qui ont intérêt. Il y a un gros chèque. Moi, je veux dire, j'ai 50 ans, 54 ans, ben je pars et je verrai bien après. Je verrai bien ce que je fais. Mais on se rend compte, certes, on part peut-être avec un gros chèque, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se rend compte qu'effectivement, on ne trouve pas de boulot. Pourquoi? Parce que culturellement, on est parce qu'on coûte cher. Et il y a un deuxième problème, c'est le lien entre le travail et la santé. À un moment, ça devient plus pénible de travailler. Selon le niveau d'études également, ce sera aussi, plus ou moins, on aura de plus en plus de problèmes de santé. Il y a une dégradation de la santé. Mais également, on est pressable. On va nous pressuriser entre 35 et 45 ans. On est épuisé après. Dans certaines entreprises, on le voit avec toutes les transformations de l'emploi, les salariés sont quand même très pressurisés. Et donc, ça altère la santé. Ça altère la santé physique, psychologique, mentale. Et donc, on peut partir. Alors, soit on a encore le courage et on part sur des nouveaux statuts, pas forcément le salariat, soit on n'a plus le courage et on ne sait pas quoi faire. Ça pose une vraie question. Alors qu'effectivement, en Finlande, ils ont compris une chose, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée à embaucher quelqu'un de plus de 50 ans. Les enfants sont faits, sont grands, sont partis. La santé à 50 ans, ouais. Je suis désolée, je pense qu'on a quand même encore, il y a mon système de santé, donc on est quand même la forme. On a de l'expérience, on a de la valeur ajoutée. Oui, certes, on coûte un peu. On sait ce que c'est. En général, il ne faut pas nous former, pas trop. Et donc, on a plein d'avantages, mais les employeurs français ont de la difficulté à intégrer ça pour amener, effectivement, il n'y a pas de prise en compte.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Assiste-t-on à une grande reculade, une fois de plus, Roland Kayrol ? Est-ce que là, c'est très ancien monde ce qui se passe sous nos yeux ?
Je ne sais pas, parce que l'ancien monde ne lançait pas beaucoup de réformes, donc il n'avait pas besoin de renoncer. C'est quand même, si on a une réforme systémique des retraites, c'est parce qu'on l'attend depuis longtemps et qu'on avait jusqu'à maintenant fait du raccommodage.
Mais là, est-ce que Jupiter n'est pas tombé sur un os ?
Ah, c'est tout à fait le cas. Mais Jupiter, maintenant, il ronge son os et il a appris que c'était comme ça qu'il fallait gouverner. Moi, je trouve que c'est un progrès. Je trouve qu'il faut savoir, encore une fois, gouverner avec la société et gouverner avec les corps intermédiaires. Je trouve que la découverte de ce que c'était que la négociation sociale est un pas en avant par ce gouvernement. Alors, il doit encore faire pas mal de progrès, à mon avis. Mais bon, oui, évidemment, il y a eu un os, là.
Pour compléter, d'ailleurs, là, pour le moment, on a parlé des syndicats qui bloquent, mais le gouvernement a la CFDT à ses côtés. En tout cas, Laurent Berger met des conditions, négocie, essaye de co-construire, mais il n'appelle pas à la mobilisation.
Grève le 5 décembre.
Et ça, c'est très important.
C'est ce qui pourrait le sauver.
En tout cas, c'est ce que cherche à préserver aussi le gouvernement en redonnant du temps, en redonnant
de la démocratie. Il a enfin compris.
Et justement, parce que c'est la question téléspectateur suivante, alors si on écoute les syndicats, on ne fait rien et on laisse le système actuel s'écrouler. Vous direz que la différence par rapport à 1995, c'est que cette fois,
c'est pas unitaire,
il n'y a pas une unité de syndicats.
Tous les syndicats, voilà. Là, les syndicats, il y a vraiment deux clans très marqués. Il y a ceux qui ne veulent pas de la réforme du tout, qui ne veulent pas en entendre parler. Et puis, vous avez effectivement une CFDT locomotive qui est quand même le premier syndicat du privé et qui a quand même gagné aussi des parts dans certaines entreprises publiques, qui lui dit, écoutez, la réforme par point, nous, on la veut, on travaille dessus depuis très longtemps. Après, on ne la veut pas à n'importe quelle condition, mais on la veut. Donc, pour l'instant, Emmanuel Macron et le gouvernement ont ce camp-là à leur côté.
Roland Kayrol, salarié du privé, vais-je être obligé de travailler jusqu'à 62 ans et d'aider à financer les retraites de ceux qui peuvent partir à la retraite à 52 ans ? C'est là le cœur de l'injustice qui est ressentie parfois.
Oui, là, ça résume bien l'espèce de paradoxe dont je parlais tout à l'heure. C'est forcément les gens du régime général qui sont ceux qui payent pour les régimes spéciaux. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il faut bien payer.
Voilà. La solidarité.
C'est ce qu'on appelle la solidarité.
Mais une solidarité qui est vécue comment ? Injuste, puisque les uns partent à 62 et l'autre à 52.
On en parle là, donc c'est actuellement injuste, effectivement. Mais faut aller plus loin, faut faire de la pédagogie aussi de ces injustices.
Les gens vous disent par exemple, mais parce que cette histoire de pénibilité spéciale des conducteurs de train, c'est beaucoup plus pénible d'être caissière de supermarché.
Oui, mais Roland Kayrol, les cheminots,
dans ces comparaisons,
va dire, moi j'ai été embauché, c'était dans le contrat, j'ai accepté d'être mal payé, j'ai travaillé le week-end, j'ai pas vu mes enfants à Noël, mais en échange, on m'a promis une retraite à 52 ans, et vous venez me la retirer.
Là, vous plaidez pour le nouveau système qui serait de ne prendre en compte dans la réforme que les gens arrivant sur le monde du travail en 2025.
Doit-on craindre des grèves monstres comme en 95 ? Qui a une...
Oui. L'histoire se répète rarement, donc il n'est pas du tout certain que ça enclenche derrière. Ce qui est certain, c'est que la menace est très forte. Donc le gouvernement fait tout pour éviter que ça déborde au-delà du 5 décembre.
Comment réformer le régime des retraites tout en préservant le pouvoir d'achat des Français ? Fanny Guinochet, ça va coûter, ça ? On va payer plus de cotises ?
Ça va coûter, mais après, c'est sur le temps long. Enfin, il ne faut pas non plus... et c'est vraiment sur le temps long, c'est toute l'histoire de cette négociation. Mais oui, une réforme, en général, ça coûte, au départ.
Ça va coûter tout de suite, parce qu'on va avoir 9 à 10 milliards de déficit du régime d'ici là. Maintenant, si on reste dans l'ancien système, on va avoir 9 à 10 milliards de déficit qu'il faudra
d'ici
payer.
2025. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Elle sera retransmise ce soir à 23h15. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.